VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Cotonou, bienvenue à notre journal. Élection présidentielle au Tchad, c'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle se prononcera sur les recours introduits par les candidats dont elle a rejeté les dossiers pour diverses raisons. Parmi la dizaine de candidatures à la présidence écartées, figure celle de l'opposant historique Ngaoledji Yuongar et de l'ancien premier ministre de la transition Fidel Mungar. Au micro de John Lyndon, écoutez ce qu'en dit le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
Il me semble qu'il y a certains rejets qui ne répondent pas aux critères objectifs de violation de la loi électorale, notamment les questions, par exemple, de non-présentation de photos ou d'oubli, qui n'est pas une question intentionnelle, par exemple, pour le candidat Yuongar Ngaoledji, ou bien pour d'autres également, pour ceux qui n'ont pas de raisons fondamentales assez sérieuses pouvant justifier le rejet à ce niveau-là.
Est-ce que le Conseil constitutionnel est vraiment indépendant au Tchad?
Il est supposé être indépendant, mais malheureusement, les 5 membres du Conseil constitutionnel sont désignés par le président Déby. Les 4 autres sont désignés à la proposition du président de l'Assemblée nationale, qui est de la même majorité parlementaire que le président Déby. Alors franchement, de là à comprendre qu'il soit indépendant, c'est une question qui est posée.
Le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena. Mission de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. L'ONU a recensé l'an dernier 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus. Le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, note une nette augmentation par rapport à 2014, où il y avait 52 cas, et 2013 avec 66 cas. D'après l'AFP, ces cas sont concentrés sur deux pays, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Le rapport recommande de créer des cours martiales sur place pour juger les coupables et de prendre les empreintes génétiques des casques bleu. Au Soudan du Sud, l'ONU revoit à la hausse le bilan de l'attaque d'un camp de déplacés à la mi-février. Dans un rapport publié aujourd'hui, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, annonce qu'au moins 25 civils ont été tués et 120 blessés par les hommes armés portant les uniformes de l'armée gouvernementale. L'ONU avait dans un premier temps fait état de 7 morts et une quarantaine de blessés dans l'attaque de ce camp, proche de la base onusienne de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil. L'ONG Médecins sans frontières avait, elle, parlé d'au moins 18 morts et 90 blessés. Corne de l'Afrique, des experts américains sont arrivés en Éthiopie pour aider ce pays à faire face à sa pire sécheresse des 50 dernières années. Les précisions de Lionel Gaïma.
Ils sont une dizaine de membres de l'équipe de réponse aux désastres de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à avoir débarqué à Addis Abeba cette semaine. Leur mission, coordonner la réponse américaine à la sécheresse qui dévaste l'Éthiopie. Ils seront rejoints dans les prochains jours par des spécialistes de la logistique, des nutritionnistes et des experts en eau et assainissement. Il s'agit pour l'administration américaine de prévenir un désastre humanitaire majeur en Éthiopie et de préserver les gains chèrement obtenus par ce pays en matière de développement, a expliqué l'administratrice de l'USAID, Gail Smith, dans une déclaration. Lors de sa visite de l'année dernière en Afrique, le président Barack Obama s'était rendu en Éthiopie. Il a fait de la sécurité alimentaire une des priorités de sa politique en matière de développement, déclarant en 2013 que mettre un terme à la famine en Afrique relevait d'un impératif moral.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, élection présidentielle au Bénin. 33 candidats s'affrontent dimanche pour la magistrature suprême. Le président sortant, Thomas Boni Yayi, ne se représente pas après 2 mandats, conformément à la Constitution. Les 5 favoris dans la course à la présidence, le premier ministre sortant, Lionel Zinzou, 2 des plus gros hommes d'affaires locaux, Patrice Talon et Sébastien Ajavon, et 2 banquiers internationaux, Abdoulaye Bio Tchane et Pascal Irénée Koupaki. L'enjeu majeur, les attentes de la population sur le plan socio-économique. Pour analyse, Eric Maniz-Rakiza a joint à Cotonou le professeur de droit constitutionnel Joël Aïvo.
Après 10 années de gouvernance du président Boni Yayi, le Bénin fait face à une crise morale, crise éthique, à un effondrement de sa vie politique, du système partisan. Et l'enjeu majeur, c'est de trouver les bonnes réponses qu'il faut aux problèmes qui se posent dans le pays et au fond de savoir quel est parmi tous ces candidats celui qui est capable de porter les aspirations des Béninois et de trouver des approches de solutions aux problèmes, surtout aux problèmes économiques et sociaux qui se posent dans notre pays.
Donc, le successeur constitue en lui-même un enjeu majeur.
Le successeur constitue un enjeu majeur parce que, comme vous le savez, heureusement ou malheureusement, l'élection va probablement se jouer contre les indépendants, parce que les cinq qui forment le quintet de tête, parmi lesquels je pense probablement que les Béninois choisiront le chef de l'État, ces cinq qui n'appartiennent pas à des formations politiques, ces cinq indépendants, ce qui projette encore plus violemment la crise du système partisan béninois, que désormais le Bénin semble fonctionner comme une démocratie privée, une démocratie personnelle, où seules les ambitions personnelles, seules les aventures personnelles triomphe parfois de l'organisation des partis politiques. Donc cet enjeu a vu quand même la classe politique béninoise complètement reconfigurée, d'autant que vous avez la majorité au pouvoir qui s'associe à l'opposition, ou vice-versa, l'opposition qui s'associe à la majorité pour soutenir un candidat, Lionel Zissou, en face duquel vous avez plusieurs autres hauts cadres du pays et parfois des magnats, ce qu'on appelle des opérateurs économiques qui tiennent un peu le poumon économique du pays. Donc vous avez en gros une élection qui va se jouer malheureusement en dehors des formations politiques, parce qu'aucun parti politique n'a présenté de candidat sorti de ses rangs. C'est pour moi un signe de l'échec de notre système partisan et de ce que l'élection qui va se jouer et le mandat qui va s'ouvrir à partir du 6 avril est un mandat de chantier, est un vrai mandat de chantier. Et celui-là doit avoir l'intelligence nécessaire pour rassembler les Béninois, mais surtout pour trouver les solutions aux problèmes économiques, politiques et sociaux qui se posent à notre pays.
Est-ce que les règles de jeu sont-elles verrouillées?
L'élection au Bénin est très ouverte. Elle est très ouverte. Personne ne peut dire, et je ne connais vraiment pas d'analyste, qui peut avancer que tel gagnera et tel ne gagnera pas. C'est pour vous dire que le jeu est ouvert et que malgré le contrôle de la Sénat par les institutions ou parfois, on dit, par la majorité, on ne peut pas dire que le président Boulay a verrouillé le jeu pour que triomphe son candidat. Personne ne peut le dire. C'est une élection totalement ouverte, je dirais incertaine. Et c'est ça qui fait parfois la beauté de la démocratie.
Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel à Cotonou. En Guinée, 6 militaires, dont un ancien chef de l'armée en prison depuis l'attaque du domicile du président Alpha Condé en 2011, finalement libérés. Le juge Sékou Dany Keïta, un magistrat civil, président du tribunal militaire permanent de Conakry, a condamné les 6 prévenus à un temps égal à leur détention préventive respective et ordonné leur remise en liberté. À l'énoncé du verdict, le général Nourou Thiam, ex-chef d'état-major de l'armée, s'est refusé à toute déclaration. Le général Thiam et le lieutenant-colonel Mamadouba Bondabon Camara, ancien préfet de Doubrika, étaient en détention préventive depuis juillet 2011. Ils ont été jugés pour désertion et violation des consignes lors de l'attaque du domicile privé du président Condé le 19 juillet 2011. Et puis la Mauritanie a institué une journée nationale de lutte contre l'esclavage qui sera célébrée chaque année le 6 mars pour contribuer à éradiquer ce phénomène qui perdure dans le pays en dépit de son abolition depuis plus de 30 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Agence mauritanienne des formations. Le Conseil des ministres réuni jeudi a adopté un projet de décret instaurant une journée de lutte contre les pratiques esclavagistes, indique le gouvernement dans un communiqué publié par l'Agence mauritanienne. Actualité aux États-Unis maintenant, nouveau débat télévisé côté républicain jeudi soir dans la course à la Maison-Blanche. L'homme d'affaires Donald Trump a subi les attaques répétées de ses adversaires des primaires républicaines. Michel Joseph.
De 17 candidats au départ, il n'en restait que 4 à Détroit ce jeudi soir pour le 11e débat des primaires républicaines diffusé sur la chaîne Fox News. Donald Trump a été attaqué immédiatement sur sa carrière d'homme d'affaires. Le sénateur de Floride Marco Rubio s'est attelé à saper sa réputation en insistant sur les faillites de certains de ses casinos, les entreprises ratées de l'Empire Trump ou le procès civil d'ex-étudiants de l'ex-université Trump qui vendaient des cours sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. Vous n'avez jamais employé une personne de votre vie. J'ai employé des dizaines de milliers de personnes, a répondu Donald Trump sur la défensive. Modérateurs et rivaux ont souligné durant l'émission des contradictions et revirements du favori qui peine à persuader l'ensemble des conservateurs qu'il est bel et bien l'un des leurs. Apparemment consterné par le niveau de la discussion, le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, s'est présenté à nouveau comme le candidat le plus raisonnable, vantant son expérience exécutive et au Congrès sur le budget. Le débat concluait une journée mouvementée pour le Parti républicain, divisé sur l'ascension irrésistible de Donald Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Yeah, yeah.